énervé. La radio qui pète une case!
Et bonjour à tous, c'est Radio Énervé, spécial série, notre programme, dépoussiérer votre vision de ce pays en guerre. Nos outils, Enzo à l'animation, le reste de l'équipe aux chroniques. Mais la série c'est quoi? Petite présentation de Camille, Mélissa nous brossera une version subjective du cinéma syrien avec Cries for Syria et Syria for Love. Tu veux briller en société, tu veux te la péter grâce à tes cultures générales, participe au quiz d'Elio, chauffe tes neurones, c'est dans 15 minutes. T'as envie d'aider la série? Lucie te briefera sur la meilleure manière de le faire. Vous allez aussi découvrir les héros syriens tip-top, du rap fait par des réfugiés, l'épopée de Gilgamesh, premier récit mythologique eurasien. Restez à l'écoute, la Syrie vous parle à travers la radio énervée. Mais avant le voyage, écoutons une révoltée française, Renaud, mort les enfants.
Chiffrons à l'adolescence, un enfant meurt en silence, sur le trottoir de Bogota, on ne s'arrête pas. Déchiquetés aux champs de mines, décimés aux premières lignes, par les enfants de la guerre, pour les idées de leur père. Balle à l'ambassade, quelques vieux malades, imbéciles et gravataires, se partagent l'univers. Morts les enfants de Bhopal, d'industrie occidentale, partis dans les eaux du Gange, les avocats s'arrangent. Morts les enfants de la haine, près de nous ou plus lointaines. Enfants de la peur, chevrotineux dans le cœur. Balle à l'ambassade, quelques vieux malades, imbéciles et militaires, se partagent l'univers. Mort les enfants du Sahel, on accuse le soleil. Mort les enfants de Céveso, mort les arbres, les oiseaux. Mort les enfants de la route, dernier week-end du mois d'août. Papa picolait sans doute, deux ou trois verres, quelques gouttes. Balle à l'ambassade, quelques vieux malades, imbéciles et tortionnaires, se partagent l'univers. L'enfant qui vivait en moi, qui voyait en ce monde-là un jardin, une rivière et des hommes plutôt frais. Le jardin est une jungle, les hommes sont devenus dingues. La rivière charrie des larmes, un jour l'enfant prend une arme. Balle sur l'ambassade, attentat, grenade, hécatombe au ministère, sous les gravats, les grabataires.
C'était Mort d'enfant de Renaud. Bon Camille, pas trop déprimée après cette chanson?
Non, ça va.
Camille prête?
Toujours.
L'Amérique. La découverte du monde, c'est maintenant.
Salut tout le monde! Si cet été vous aviez l'intention de partir en vacances et de vous prélasser sur les plages de la Méditerranée tout en effectuant une petite visite des ruines antiques de Palmyre, ben, il va falloir reporter votre voyage. Mais pas de panique, parce que c'est à travers mes mots que vous allez voyager. Mesdames et messieurs, bienvenue sur RNRV. Nous vous prions de bien attacher vos ceintures et soyez parés au décollage. Comment vous dire ? J'ai supplié à genoux Stéphane, Grégoire et Christian pour faire une spéciale série. C'était un peu humiliant, mais bref, j'adore la série. Pas simplement à cause de la situation actuelle, mais je suis une passionnée d'histoire. Oui, oui, je vous le jure, allez demander à mon prof d'histoire si c'est pas vrai. Bref, la Syrie est un pays qui regorge de richesses historiques. Alors, petit rappel pour les cancres du fond de la classe. La capitale est Damas, on parle arabe, et le président actuel est Bachar el-Assad. Enfin, si on peut l'appeler président, vu ce qui se passe. Et il y a aussi les religions. Ah, les religions. Quand on parle de la religion au Moyen-Orient, il ne faut pas rigoler avec. C'est tellement compliqué, vous imaginez même pas. Tout d'abord, les musulmans et ses courants chiites et sunnites, qui sont un peu en froid actuellement. Pour faire un rapide petit parallèle, c'est comme les catholiques et les protestants durant les massacres de la Saint-Barthélemy. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, vous voyez pas ? Bon, ben, ils font la bombe ensemble. Et il y a encore d'autres courants musulmans représentés comme les alouites. Ça, c'est la religion de notre Bachar. Mais ils sont une toute petite minorité dans le pays. Les 10% restants sont soit chrétiens, juifs ou yézidis, donc d'origine kurde. Bon, on est tous au courant que là-bas, actuellement, c'est un peu la foire et c'est difficile de siroter sa bière tout en lisant un livre au bord de la plage. On va laisser de côté cet aspect peu réjouissant et monter dans notre DeLorean pour faire un voyage dans le temps. Nom de Zeus, Marty. Alors toi, petit malin qui nous écoute, tu connais l'origine du pays ? Non, je suis sûre que tu la connais pas. C'est pour ça que je suis là. Alors, en fait, la Syrie actuelle était un peu la boule de ping-pong entre les différents empires de durant l'Antiquité. Pour faire court, elle a appartenu aux Égyptiens, aux Assyriens, aux Perses, à Alexandre le Grand par-dessus le marché, et aux fameux Romains et à leur uniforme que les village people n'auraient pas renié. Jusqu'à la naissance d'une nouvelle religion, l'islam. À partir de ce moment-là, l'islam va prendre du territoire jusqu'à arriver à la Syrie actuelle. C'est en gros l'origine de la Syrie. Pour plus de détails, je vous laisse contacter mon prof d'histoire. Alors je vous parlais des très populaires village people qui déchaînent les gens en fin de soirée sur les pistes de danse. Mais sans les ancêtres des Syriens, pas de village people. Et oui, la plus ancienne mélodie date de 1400 avant Jésus-Christ et a été découverte en Syrie. Comme quoi les Syriens ont toujours eu l'oreille musicale. On va rester dans le domaine de l'art, mais cette fois architecture. En Syrie, on trouve de nombreux monuments historiques, comme la vieille ville d'Alep ou encore la cité antique de Palmyre. Des monuments qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais on ne peut pas vraiment dire que le contexte actuel aide à la préservation. Vers l'an 1500, un type un peu ouf, qui s'appelait Siméon le Stylite, a passé, juste 40 ans de sa vie sur une colonne. Oui, tu as bien entendu, une colonne. Il avait juste assez d'espace pour se tenir assis, et on lui a donné à manger à l'aide d'une échelle. Et aujourd'hui, ben, il en reste toujours un peu de cette colonne. Mesdames et messieurs, nous arrivons à destination. Nous vous prions de rattacher vos ceintures. RNRV espère que votre vol fut agréable. Car oui, c'est déjà la fin de cette chronique. Comme vous avez pu le comprendre, la Syrie est un pays très complexe. Entre ses religions, cette guerre et son histoire, on en perd notre arabe. Bref, après cette blague pas très drôle, on se dit au revoir en musique avec une chanson pour la Syrie. Et non, aujourd'hui je ne vous saluerai pas dans la langue officielle parce que l'arabe est juste trop compliqué. Allez, salut!
بالصوت العالي بدي أقول بس الصوت صغير يمكن نحن أولاد صغار بس صرختنا من القلب بدنا نمحي كل الخوف ونكون التغيير بأعلى صوت بدي أقول بالغني كل شي معقول حدا يسمع حدا يشوف طفولتنا بدنا
Ça m'énerve.
Je suis colère.
La voix de la veuvesse.
Quelle belle musique nous venons d'entendre. Avant d'écouter la suivante, Mélissa est avec nous pour une pause ciné. Ça va, Mélissa ?
Bien, bien, et toi ?
Ça va. Allez, moteur, ça tourne.
Non, je suis ton père.
Actu ciné. Action.
Hello tout le monde. Pour commencer cette émission spéciale série, je vais vous parler de deux réalisateurs et de deux films, tout devenus, je vous laisse deviner, de Syrie. Le premier n'est d'autre que Sean McAllister avec A Syrian Love Story et le deuxième Cry for Syria de Eugene Afinevsky. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il existe énormément de films sur ce sujet. De nombreux films qui vous plairont certainement, mais si vous êtes plutôt sensible devant des films tristes ou encore violents, je vous conseillerais de vous abstenir. Car oui, faut pas vous attendre à un film basique où on observe tranquillement une dame en train de cuisiner et des enfants en train de jouer. Je trouve ça pas mal choquant quand on pense que nos inquiétudes, c'est de savoir si le rose va bien que le vert, tandis qu'eux se battent tous les jours pour sauver leur famille ainsi que leur peau. Bon, enfin bref, je vous laisse avec un extrait de la bande-annonce du premier film, car sinon on y sera encore demain.
Mr. President, Bashar al-Assad, his boys, take my mother.
Nine months without his mom.
9 months, yeah.
I'm die for a freedom for a Syrian people.
When Baba?
I love her more than anyone can love anybody.
A Syrian Love Story est un film qui a été réalisé en 2014 par un réalisateur britannique, français, libanais et syrien. Né le 2 mai 1965, Sean McAllister vient en Angleterre avec sa famille. Il débute sa carrière dans le cinéma avec Flying Dates, créé en 1988. Entre-temps, le réalisateur sort plusieurs films, tous réalisés entre plusieurs frontières. C'est par exemple le cas pour Toxic Waste, 1988, Hesley Road, 1988 de nouveau, et A Passing South en 1989. En tout, Sean a sorti 18 films qui ont été réalisés par plusieurs compagnies de réalisation. 4 entiers films, un homemade film, 4 NFTS, un vagabond film, un mosaïque film, un Modern Times, 2 True Story et 4 Ten Foot films. Dans un Syrian Love Story, Sean McAllister raconte, comme l'indique son titre, une histoire d'amour en Syrie. Mais le concernant, je n'ai trouvé aucune information pertinente. Pour vous dire, même le nom des acteurs est introuvable. Mais au moins, je vous aurais parlé d'un réalisateur qui depuis 1988 produit des films en Syrie et qui d'ailleurs est reconnu là-bas. Pour ne pas perdre de temps, voici la bande-annonce de Cry for Syria, qui cette fois-ci est un film beaucoup plus violent, triste et... Il est vraiment terrible. Je le répète encore une fois, âme sensible, s'abstenir.
Syria is a very ancient and beautiful country. It's called the cradle of civilization. But we have been living under dictatorship for 40 years. But we were so optimistic that the revolution will sooner or later start in Syria.
They wrote, "It's your turn, doctor," because Bashar al-Assad was trained as a doctor.
But anyone who talk about him, he will just disappear or he will die.
It was horrible. It started the revolution all over Syria. More than 500,000 people joined the demonstrations.
Je pense que vous avez rien compris, donc voici la traduction. La Syrie est un magnifique pays. Cette nation est appelée le berceau de la civilisation, mais ça fait 40 ans qu'on vit sous la dictature. Malgré ça, nous étions optimistes et pensions qu'un jour ou l'autre, notre révolution arriverait. Malheureusement, suite à la révolte du peuple, chaque personne qui parlait de Bachar al-Assad, le monarque autoproclamé de Syrie, disparaissait ou mourait. Ce fut le début de la révolution au travers de toute la Syrie, dans la guerre et la mort. Depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011, près d'un demi-million de Syriens sont morts et 5 millions ont été forcés de fuir leur maison. À la suite des manifestations de printemps arabes en Tunisie, en Égypte, en Bahreïn, en Libye et dans d'autres pays de la Ligue arabe, la Syrie a été rapidement balayée par l'aura jubilatoire de la liberté. Inspirés à suivre les traces de leurs voisins, les Syriens se sont sentis encouragés à se battre contre le régime oppressif de Bachar al-Assad. Ils voulaient simplement être libres. Mais bien sûr, rien ne fonctionnera et ne fonctionne comme prévu. En quelques mois, Al-Assad a démontré ses intentions cruelles. Ses politiques préservent une brutalité sans limite qui n'a été observée dans aucun des autres soulèvements de printemps arabe. Déterminés à se battre, les rebelles syriens, héroïques jusqu'aux boutistes, perdent leur vie et leur santé mentale pour leur bonne cause, pour leur pays, pour leur liberté. En glissant dans l'inhumanité, la guerre civile syrienne est devenue un conflit anachronique. C'était un petit résumé de ce film, et je n'ai préféré ne pas parler du côté vraiment cruel de cette guerre, de 1 car ça vous spoilerait l'histoire, et de 2 car c'est un peu violent et donc inutile. De toute façon, vous pourrez toujours passer voir ce film pour en savoir plus, ou tout simplement écouter les prochaines chroniques de cette émission qui seront, c'est promis, plus gaies. Bon, je vous laisse. Bye bye les cinéphiles, à toutes!
Bien intégré, quasiment new-yorkais. Dans mon bulletin tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
Un 747 s'est explosé dans mes fenêtres.
Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les ponts m'ont rasé mon village. Deux étrangers
deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
Solo gagne mon rêve américain.
Moi, plus jamais esclave des chiens.
Il t'imposait l'islam de tyran.
Cela n'oublie jamais ni le Coran.
Devenu poussière, je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse au pied d'argile.
Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations.
Encore du Renault sur Radio NRV, c'était Manhattan Kaboul. Tiens Elio, toi qui es le roi des quiz, c'est la capitale de quel pays Kaboul?
Kaboul, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Excellente mauvaise réponse, dommage. Bon, je te laisse faire ton quiz, apparemment tu vas passer Camille Océane sur le grill, c'est ça?
Exactement, je pense qu'elles vont bien se mettre sur la gueule, ça risque d'être assez difficile.
Ouais, surtout Océane qui est pas terrible niveau questions et réponses.
Ok,
je... Ok, oui, ok. Allez, on okay, quiz.
Oh, shit!
L'Hebdomadaire, le journal avec de bonnes infos.
Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui comme vous l'avez entendu c'est l'émission spéciale Syrie. Donc aujourd'hui je laisserai de côté les nouvelles farfelues pour laisser place à un quiz spécial Syrie. C'est pourquoi j'ai fait appel à deux candidates, Camille et Océane, veuillez les accueillir. Bon Camille, Océane, vous êtes prêtes, pas trop stressées?
Ça va.
Moi, ça va, mais j'ai un peu peur.
De toute façon, je vais te laminer, hein.
Toi, tu vas rester au calme parce que moi aussi, je suis très forte. Ou pas.
Et je sens que Céane, elle est chaude. Du coup, on va commencer...
Chaude, à fond.
À fond. On va commencer, du coup, avec la première question. Question géo pour se chauffer. Surtout pour Camille, hein, parce que Camille, elle est un petit peu froide. Là, je sens...
T'es froide, hein.
Préparation. Du coup, on va lui poser la première question. Quelle mer est rattachée à la Syrie? Réponse A.
C'est la mer Noire.
Réponse B. La mer Caspienne. Réponse C. La Méditerranée. Réponse D. La mer Rouge.
Attends, laisse-moi réfléchir.
Attends, on attend peut-être que Océane se reprenne, c'est bon?
C'est bon, je suis là.
Tu es
c'est
reprise.
Pas la mer Noire.
Parfait. Camille, la réponse
je sais plus quoi, la Méditerranée.
La Méditerranée, c'est une bonne réponse. Camille marque un point. C'était la Méditerranée, donc. Et malheureusement, donc, elle n'est plus visitable du côté syrien. Mais j'ai regardé sur Google et ça avait l'air vraiment magnifique, donc c'est un peu dommage. Donc tiens, en parlant de choses magnifiques, c'est la deuxième question. Combien de monuments culturels font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO? Océane? Réponse A. Attention, je te dirige un petit peu quand même.
Yes.
Aucun, il n'y a que des ruines. Réponse B, il y en a 10. Réponse C, 3. Réponse D, 6.
0, c'est toutes des ruines.
Et non, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Tu ne marques donc pas
c'était
de points.
C'était quoi la réponse?
Il y en avait 6 et parmi ceux-ci, on compte, il y a la ville d'Alep, à qui on doit le savon d'Alep qui est fait à base d'huile d'olive et de laurier et qui est encore fabriqué par une quarantaine d'artisans.
Mais c'est pas un monument?
Bien sûr.
Un monument, l'ancienne ville d'Alep quand même, c'est quelque chose,
c'est
quoi.
C'est quelque chose. Il y a quoi qui vient de là-bas? Le savon?
Le savon d'Alep.
On voit ma culture générale, oh là là, oh là là, Océane.
La réputation auprès des profs de géo descend.
À part parler derrière un micro, je fais rien de ma vie.
S'assois.
Et moi je vois ça. Regarde, pense peut-être à regarder un peu plus de documentaires, ça te ferait du bien.
Le documentaire animalier, ouais.
Mais je te demande quand même à toi, Camille, parce que je sais que t'es une très grande fan du savon, est-ce que le savon d'Alep est absolument génial?
Alors, je n'ai pas vraiment testé, mais de ce que j'ai entendu, oui.
C'est sous les bras, non?
Ouais, je crois.
C'est du savon.
On va pas partir sur vos techniques de savonnette. Mais apparemment, Camille, tu préfères la troisième question. Pourquoi le conflit syrien dure si longtemps? Réponse A, les ennemis syriens.
Elle a des questions faciles.
Elle a des questions faciles, alors vous répondrez les deux à la question.
Voilà, je préfère.
Alors, réponse A, ils sont beaucoup trop forts. Réponse B, des gros états les soutiennent. Réponse C, Le Pen n'est pas présidente.
Le Pen, mais, le Pen,
B,
le
Pen n'est pas états.
C'est les gros états qui les soutiennent.
Eh ben, bien joué, vous avez les deux, la bonne réponse.
J'ai mais... deux points, je m'en fous.
J'en ai un.
Donc ça fait 2 à 0 et à 1, pardon, pour Océane. Désolé, Océane.
T'as déjà pas beaucoup de points.
Ouais, s'il te plaît, merci.
Bon, les autres sont à discuter, ils sont pas forcément, enfin, du coup, à écarter de la théorie, mais la réponse B, elle était la plus appropriée. C'était les principaux états qui soutenaient la Syrie en approvisionnement d'armes. En 2014, c'était la Chine et la Russie, rien que ça. Donc Camille, si pour la dernière émission, tu décides de faire encore une revue du monde, n'oublie pas de mentionner ça dans ta chronique, s'il te plaît. La Chine et la Russie, tu retiens.
Donc,
bon,
ouais.
Bon, avant
mais,
que...
Mais la Chine et la Russie, c'est ceux qui ont livré les armes, c'est ça?
Ouais,
parce que... faut aller les taper. Genre taper tout Poutine et tout.
Bah ouais, vas-y, moi je te laisse y aller toute seule. Hein.
On va demander à Stéphane s'il vous donne un billet. Donc, bon...
Faut aller taper.
Avant que Océane parte taper les Russes et les Chinois, on passe à la dernière question. Mais attention, celui qui répond à cette question gagne le jeu. Pour l'instant, c'est attention. Camille qui mène la partie.
Ouais, mais si je réponds, on a égal-égal.
Non, parce que celui qui répond gagne le jeu.
Ah ok, c'est bon.
Mais comprends. Attention, s'il n'y a aucune réponse, c'est l'égalité. Et je vous laisserai seul juge de partager votre prix.
On va se fighter dessus.
Donc attention, c'est parti. Après la guerre israélo-arabe de 1948, je procède à un coup d'État en mars 1949, mettant fin au système parlementaire syrien. Je suis.
Ben Laden.
Aucune. Bien essayé, Camille, une réponse.
Oussama Ben Laden. Comment il s'appelle ? Il y en a un qui a un autre prénom là. Bachar al-Assad.
Non.
Ça, c'est le président.
Mais répète la question, s'il te plaît. Tu l'as un peu dit trop vite.
Ouais.
Après la guerre israélo-arabe de 1948, je procède à un coup d'État en mars 1949, mettant fin au système parlementaire syrien. Camille ne regarde pas les feuilles. Je suis.
Oh, tricheuse.
Moi, j'en sais rien.
C'est facile. Donne-nous la première lettre, au moins.
La première lettre, H.
Hakim.
Bon, je crois qu'on va conclure parce que.
Laissez ça, Hakim, commence... il est gênant.
Ça commence à prendre un peu beaucoup de temps. Donc, c'est le célébrissime colonel Husni Al-Zaïm, évidemment. Enfin, franchement.
Célèbre.
Vous me décevez un peu.
Ouais, célèbre. Célèbre. Merci, Enzo. Célèbre.
C'est ainsi que vous finissez malheureusement égalité. Mais bonne chance pour vous. Vous remportez la rancobolesque somme de 5 centimes. Mais comme je suis gentil, 5 centimes chacun. Et au studio radio, de l'autre côté, il y a un magnifique yogourt à la grecque qui vous attend.
C'est dégueulasse, yogourt.
Du coup, ce sera pour Camille.
Merci beaucoup.
Félicitations. Ouais. Donc, merci à vous d'avoir participé. Merci au DNR.
Merci à toi.
Mais de rien. Merci au DNR de m'avoir fait une promo exclusive sur le yogourt. Océane, Camille, un mot de la fin.
Je t'aime.
Ah, alors c'est sûr, ces belles paroles.
Non, moi pas par contre. Désolée, mais non.
Alors, un autre mot de la fin.
Merci pour tes questions. C'était très pertinent.
Merci.
Alors... On apprend tous les jours avec Elio.
Je t'aime, merci pour ces questions. C'est sur ces belles paroles qu'on se laisse avec un peu de musique pour vous rafraîchir les oreilles.
Au revoir.
Bonjour Lucie.
Salut Enzo.
Ça va ?
Oui et toi ?
Alors comment répondre à tous ces SMS avec un petit rapport avec la chanson ? Je crois que tu as les réponses dans ta chronique. Alors magnéto Sacha.
Showstar, toute l'actu des célébrités.
Onde. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, pour notre émission spéciale série, je ne vais pas vous parler d'une personne célèbre venant de ce pays, ni d'une personne qui a dirigé ce pays, et pas non plus d'un film qui a été tourné là-bas, et encore moins d'une personne qui a déclaré ou fait la guerre dans ce pays. Non. Aujourd'hui, je vais vous parler des personnes qui veulent aider ce pays en détresse, ou mieux, qui veulent le sauver. Je veux parler de ces personnes qui restent toujours dans l'ombre, car on est toujours trop occupé à parler de ceux qui ont fait le mal, ou qui le font encore, plutôt de ceux qui parlent, plutôt que de parler de ceux qui sauvent une vie et redonnent de l'espoir même si tout semble dérisoire. De ceux qui redonnent le sourire et risquent leur vie pour en protéger d'autres. Oui, aujourd'hui, nous allons parler d'une association humanitaire qui sauve des vies, Syria Charity. Syria Charity a été créée en 2011. Mais que fait exactement cette association ? Ben, cette association fait de l'aide humanitaire et médicale et exclusivement en Syrie. Ce qui la différencie des autres associations, c'est que Syria Charity intervient directement, sans intermédiaire, sur les zones les plus touchées et les plus dangereuses. Alors là, franchement, chapeau bas. Mais quelles sont les missions de Syria Charity ? Syria Charity a quatre principales missions. La première mission est l'aide alimentaire. Pour être plus précise, ils interviennent dans les zones sinistrées afin de lutter contre la faim qui fait chaque jour de nouvelles victimes. Chaque mois, Syria Charity effectue des envois réguliers de vivres dans plus de 16 zones différentes. 16 zones, vous vous rendez compte ? La deuxième mission est l'assistance médicale. Cela permet d'assurer un secours rapide et efficace aux blessés. Syria Charity envoie régulièrement des ambulances dans les villes principales syriennes, comme Damas. Mais malheureusement, depuis 2011, ils n'ont réussi à financer qu'une cinquantaine d'ambulances. À ce jour, ils n'ont pu ouvrir que 3 centres de soins dans la ville d'Alep, avec seulement 7 médecins, 10 infirmiers et 2 pharmaciens. Malgré le peu de moyens, ils font tout de même plus de 300 consultations par jour. Vous trouvez normal qu'un pays qui compte aujourd'hui plus de 1,3 million de morts et un nombre incalculable de blessés pour un conflit qui ne dure depuis à peine 7 ans n'a pas plus d'hôpitaux en état de marche ? Vous trouvez normal que nous, la Suisse, on ait eu un pays 4 fois et demi plus petit que la Syrie, on a au moins 10 fois plus de médecins, d'hôpitaux ou de pharmacies ? Moi, je ne trouve pas ça normal. Non. Je trouve ça scandaleux. Parce que la troisième mission est tout simplement merveilleuse. Car Syria Charity finance entièrement l'hôpital mère-enfant situé dans la ville d'Isas. Les locaux, les matériaux ou tout simplement les ressources humaines. Enfin, pour faire plus court, c'est eux qui s'occupent de tout, là-bas. Mais malheureusement, l'année passée, l'hôpital a été bombardé. Alors afin de prévenir des dégâts en cas de nouvelle attaque aérienne, cette association a décidé d'investir dans des aménagements plus coûteux, mais de meilleure qualité. Ces dépenses vont s'élever à 75 000 euros par mois. Je ne sais pas comment ils vont faire pour trouver cet argent. La quatrième mission, et non des moindres, messieurs, dames, c'est un soutien aux villes assiégées. En effet, les équipes de Syria Charity qui sont sur place prennent souvent des risques considérables pour amener des produits de première nécessité dans des villes en état de siège comme Rastan. Pour finir, j'aimerais vous parler de quelques chiffres qui ont retenu mon attention pendant que je faisais mes recherches. Alors, au jour d'aujourd'hui, Syria Charity a 234 humanitaires sur le terrain, 432 000 personnes qu'ils ont pu aider, sauver ou alors réconforter, et 5 653 orphelins parrainés. Mais bon... Pour moi, ce n'est toujours pas assez. Il reste encore tellement de personnes en ce moment-là, maintenant, pendant que je vous parle, qui se battent pour leur vie. Tellement de personnes qui aimeraient juste avoir ne serait-ce qu'une goutte d'eau. Tellement de personnes qui viennent de tout perdre. Tellement de personnes qui n'ont plus d'espoir. Tellement de personnes qui souffrent encore au moment où je vous parle. C'est inacceptable. Mais malgré ce constat navrant, j'aimerais féliciter les 234 personnes sur le terrain qui doivent risquer leur vie tous les jours pour en protéger d'autres. Perso, je trouve qu'on ne les remercie pas beaucoup, qu'on ne parle pas assez dans les journaux. Il faut que ça change et Radio Énervé va s'y atteler. Je vais m'en charger parce que c'est pas logique. C'est pas comme ça que ça devrait être, que ça doit être. Au nom de tous ces gens qui donnent leur vie pour celle des autres, je vous souhaite une belle suite d'émissions.
Sentir le vent qui se
Énervé.
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 La voix de la veuvesse.
C'était Johnny Hallyday, Allumez le feu. Je suis maintenant avec Shana. Ça va, Shana?
Oui, et toi?
Ça va, ça va. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
De l'origine de la guerre en Syrie.
Très bien, on t'écoute.
Il était une fois. Le temps des origines.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'origine du conflit en Syrie. Quand on dit Syrie, on pense surtout à la guerre. Cette guerre qui a fait plus d'un demi-million de morts et disparus. Plus de 5 millions de Syriens, environ un quart de la population, sont des réfugiés. C'est triste de se dire que beaucoup d'enfants ne peuvent pas bénéficier d'une éducation comme la nôtre. Alors je pense qu'il est temps qu'on soit au courant de l'origine de cette guerre. Je tiens juste à préciser que je n'aime pas forcément parler d'un homme qui a créé la guerre et qui a fait des centaines de milliers de morts. Mais bon, c'est mon travail de journaliste, donc j'y vais malgré ce massacre et cette horreur qui me tord le ventre. En 1970, Hafez al-Assad, le père de Bachar al-Assad, qui est l'actuel président, prend le pouvoir. Il se débarrasse de ses adversaires et établit une dictature. À sa mort, en 2000, la constitution du pays est modifiée pour que son fils, Bachar al-Assad, lui succède. Bachar al-Assad est donc au pouvoir de la Syrie depuis 2000. En décembre 2010, un vent de révolte souffle sur les pays arabes. C'est le début du printemps arabe. Des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Libyens se révoltent contre leur gouvernement. C'est comme si le CEO de la veuvesse se révoltait et qu'il donnait l'exemple aux autres CEO du canton. En Libye, cette révolte tourne en guerre civile et Kadhafi, le dictateur libyen, va finir par être renversé. Et la Syrie dans tout ça? Eh bien, elle va aussi connaître son printemps arabe. Depuis début 2011, les citoyens manifestent en faveur de la démocratie. Une manifestation principalement pacifiste. Mais Bachar al-Assad et son gouvernement répriment ces mouvements populaires de manière très violente. C'est là que le mouvement populaire pacifiste se transforme en rébellion armée. C'est le début de la guerre civile. Cela fait donc plus de 6 ans que la Syrie est en guerre contre elle-même. Et si on compte bien, ça fait que cette guerre civile est plus longue que la Deuxième Guerre mondiale. Cette guerre, c'est passablement compliqué. Al-Qaïda, Al-Nusra, la Turquie, le Qatar et l'Arabie Saoudite sont impliqués dans le conflit. Mais je ne vais pas vous expliquer tout ça, il faudrait au moins une demi-heure pour faire le tour des belligérants. Afin de ne pas vous perdre, résumons. En 1970, le père de Bachar al-Assad prend le pouvoir en Syrie et la transforme en dictature. En 2000, donc 30 ans plus tard, Bachar al-Assad reprend le pouvoir après son père. Depuis 2011, des citoyens manifestent pour avoir un pays démocratique. Ils sont violemment réprimés par Bachar al-Assad. Ces contestataires décident de riposter et c'est le début de la guerre civile en Syrie. Et depuis 2011, déjà un demi-million de morts ou des blessés, le quart du peuple syrien a dû partir de chez eux et 2 millions d'entre eux cherchent la paix dans d'autres pays, dont la Suisse. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire, je vous laisse maintenant avec la suite de l'émission.
Ça donne toujours la frite d'écouter Seven Nation Army. Laissez-moi regarder la suite du programme. Tout de suite... Ah, mais c'est à mon tour.
Top de Enzo.
Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un top 3, car je vais principalement vous parler des casques blancs, qui sont des grands héros syriens. Pour les Syriens, 2015 a été une année très violente, une année de famine et de brutalité. Mais au milieu de l'inhumanité et du barbarisme de la guerre, il y a eu des moments d'héroïsme, de générosité et d'amour. Voici quelques exemples et des actes d'héroïsme et de compassion qui ont capté l'attention du monde entier. Qui sont les casques blancs? Eh bien, les casques blancs aident à déterrer les gens des explosions et soigner les blessés. Ils risquent des vies sur les immeubles totalement ravagés, qui peuvent s'effondrer d'une seconde à l'autre. Mais avant de risquer leur vie, ces casques blancs étaient boulangers, maçons, étudiants, de simples civils, tout comme nous. Ces gens sont de véritables héros qui sont prêts à donner leur vie pour en sauver d'autres. Il y a aussi toutes ces associations et les donateurs qui sont présents pour aider les familles et les amis. Ils aident les gens en détresse. Si vous voulez aussi les aider, il vous suffit d'aller sur le site UNICEF. Allez, je vous laisse avec Final Countdown de Europe.
intéressante cette chronique, c'est vraiment la meilleure. Bon, avant que je prenne la grosse tête, écoutons le micro-trottoir de Océane. Elle était au festival Juvenalia, je la laisse, à l'antenne Océane.
Puis, qu'est-ce qu'il a de plus que moi d'abord ?
Ce qu'il a de plus, c'est qu'il a 13 ans et qui dit 13 ans dit 13. C'est un adolescent.
Parlons ado, la chronique à Océane.
Hey tout le monde, c'est Océane, j'espère que vous allez bien. Et toi Enzo, comment tu vas ?
Ça va, tranquille, et toi ?
Tranquille, tranquille. Bon, je te remercie pour cette présentation. J'étais à Juvenalia, le festival de l'enfance et la jeunesse, et je me suis demandé que pensaient les fribourgeois de la Syrie. Les jeunes en Syrie, on en fait quoi ?
Qu'est-ce qu'on en fait ? Ben, nous, ici, c'est malheureux, mais je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est peut-être le soutenir des associations qui sont présentes sur le terrain.
Et vous avez déjà fait un don ou même un geste humanitaire pour eux ?
Je me trouve pas assez aisé dans la vie pour pouvoir m'en permettre d'en faire un.
Ce qu'on peut faire ici, nous, notre marge de manœuvre, elle est quand même assez restreinte. Et puis, les plaindre, c'est une chose, mais ça sert à pas grand-chose. Je pense que si on peut faire peut-être, je sais pas, ça peut passer par un don, par une politique d'accueil un petit peu plus ouverte, ce serait déjà pas mal.
N'importe quel jeune dans ce monde est le futur, mais pensez-vous que les jeunes Syriens sont aussi notre futur ou même le vôtre ?
Bon, ben en tout cas, c'est sûr que ceux qui viennent ici, on sera bien obligé de les intégrer, de leur donner du travail, et puis de ce moment-là, ils feront partie de la société suisse, donc les nôtres, c'est difficile de les approprier comme ça, mais en tout cas, ils feront partie de notre société, voilà.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
Oh, la colle. peut-être, ouais. Enfin, pour l'instant, ça a l'air assez bien, assez compliqué pour la situation dans laquelle ils sont, mais c'est pas impossible que dans quelques années, ça se passe un peu mieux et que le pays revive un peu, et puis qu'il puisse autant être le futur que des Suisses, des Français, ouais. Enfin, des Européens, des Occidentaux.
Et moi, qu'est-ce que je ferais pour la Syrie ? Je pense que je me retournerai vers Lucie et j'irai sur Syria Charity. Et toi, Enzo, tu ferais quoi pour eux ?
Je te suivrai, j'irai sur Syria Charity, tout comme toi.
Mais en fait, j'ai une petite question. T'as déjà fait des dons ou des gestes humanitaires, toi ?
Alors, absolument pas, non. J'ai pas pensé, j'ai pas suffisamment d'argent et je sais pas, j'ai pas eu l'opportunité de le faire.
Et toi, tu penses que les jeunes Syriens sont aussi notre futur ? C'est dur, hein ?
Alors, notre futur, dans quel sens ?
Du sens, pour le futur. Je peux pas mieux expliquer que ça, le futur.
Je dirais peut-être non, comme oui. Enfin, ça dépend la guerre, en fait. Enfin, je sais pas comment
expliquer. Comment ça se finit ?
Voilà, comment si la guerre dure longtemps, c'est sûr qu'il y en aura plus dans le pays. J'imagine, ouais. Je suis pas vraiment, mais j'imagine. Alors, au contraire, si la guerre est résolue, s'il n'y a plus de problème, normalement, ils ne devraient pas venir en Suisse.
Merci Enzo d'avoir répondu à mes petites questions. Mais maintenant, je pense que je vais laisser ma place à Society d'Eddie Vedder. Je vous souhaite une bonne suite d'émissions et n'oubliez pas, peace les gens.
Mystery to me, we have agreed, with which we have agreed, and you think you have to want more than you need, until you have it all, you won't be free, society, your crazy breed. You're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society.
without me. Less is more, but if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that.
C'était Society. Tiens, en parlant musique, je laisse la parole à Rémi, notre expert musical. Bon Rémi, à part des bruits de bombes, t'as trouvé des bons sons en Syrie ?
Ah bah oui, j'ai trouvé un bon groupe de rap.
Allez, place au rap hip-hop, place à la Syrie, au micro, Rémi. It's the final countdown.
Rétro son.
Alors, www.google traduction. The AFM. Oh, ça donne rien.
Rémi ? C'est en direct, là ?
Oh, non, juste là ?
Ouais, ouais, ça tourne.
Ah, bonjour à tous. Ouais. Par rapport à Google Traduction, vous savez qu'un groupe de rap syrien a réussi à apprendre le français de cette manière-là. Et avant de parler du groupe, on va tout d'abord s'intéresser à ses membres. Toxin Spy vient malheureusement d'un pays en guerre, la Syrie. Depuis son plus jeune âge, il vit la guerre. C'est à 15 ans que ses parents immigrent en France. Et quand on est réfugié, il faut s'intégrer. Et pour s'intégrer, il faut apprendre la langue du pays. Alors il va apprendre le français avec Google Traduction, et aussi en suivant quelques cours. Et pour tous ceux qui n'aiment pas ce qu'on apprend à l'école, écoutez bien, il apprend la conjugaison en faisant du rap. C'est quand même vachement mieux que notre foutu Becherel. Max Pai. Il a 22 ans, il est né dans une famille d'artistes. Très tôt, il s'intéresse à de nombreuses formes d'art, dessin, peinture, poésie. Il est aujourd'hui le leader du groupe. Âgé de 21 ans, Lifty Spy a commencé la musique dès son plus jeune âge, dès 5 ans, en suivant des cours de trombone à coulisses et de solfège. Un jour, il découvre Singa, une association qui met en relation des réfugiés et des Français autour d'une passion et des projets professionnels. Toxin Spy participe à un atelier d'initiation à la musique. C'est à travers leur passion commune pour la musique qu'ils ont appris à se connaître. Leur histoire, leur culture, leur philosophie, ils décident de former un groupe de rap. L'osmose se fait entre les trois jeunes garçons. Et trois mois plus tard, The AFM a été créé. Le nom du groupe The AFM est une référence à la lettre A pour authentique, F pour freedom, la liberté, M pour Moustakil, soit indépendance spirituelle en syrien. Dans leur musique, ils se sont inspirés de musique occidentale et arabe, du hip-hop, avec des tonalités de reggae, de blues, de jazz, parfois avec une touche d'électro. Et maintenant, je vous laisse avec Crazy de AFM. Allez, ciao ciao les petits fous, bisous et surtout, peace and love.
Toxin, Life, MCP. Yeah, listen up, it's the Toxin. الكل بيتحسر بس ما يريدوك ترتاح له، أهل التعصب لا ينجيبوا انفتاح. عسير تسمع الما بيعتبروا خفان، سخروا وين ما كان تحصل شرى من الشعب بس. الله تكون يوم بيحبوك، يوم بيسبوك، من بتاكل قاعدة بقلتك الشكوك. لاحظ ما بيكاتش، فاحك ما بيجاش، راح الأحبال بغار قلبي ذنبه مالي. تعالوا نحكي ما سووا، الكل بيشارك، تعالوا نحكي ما حاسدوا، الكل ساكت، الناس خير للخير، حتى جرب شفنا مشكلك كنا مشاكل فما بنعرف شو مشكلتنا شيء. طقسي فاصل بالله ليش اشغل بالي، ما بغي حياتي كل ما الناس غير الناس كل ما حياتي. دمني يا طيبة خلي الدنيا تخريها، دراك دمن يسخر من الطيبة مدعيها.
Far from an open life, other people call you crazy.
underneath the dope and lights. Cause you feel it was amazing. Try the lights over time so you can kindle all your brain. In order to love and love, I hope that you will raise it. You told me you mastered this and I can do that. So I just did this and I didn't do that. They told me stop your little movement. So I saw the frustration like a fool. They told me stop being always moving. So I followed the races and the rules. But it's boring, fast and kept aloof. And each out on my action I can choose. Now I'm opening and listening to find my honesty. Fuck convention or the West. Don't care rap without this and can live without business. Fuck this prejudice. It's a dream of my best friends that live in my life and freestyle. I discovered the art, could recover the heart. Loving is hard, it's a fire to start. Every time at each park and even though it is dark. When I can pop a rich life instead of magic and star. Far, far in open light. Other people call you crazy. So you're falling into dope and lies. Cause you feel the past amazing. Try the lights over time. So you can kindle all your brain. In order to love and love, I hope that you will raise it.
J'aimerais tellement nous voir prier. Mais tu sais que c'est compliqué. Le monde est sombre, reste figé. À quoi sert de s'impliquer quand l'union fait la force? Beaucoup ont leurs idées. Arrêtez pas l'intense. Moi je vais les réaliser. Donc je bosse, je vais pas me stopper. Polariser, même si la tempête s'approche et me fait baliser. Je me dis que même si t'as raté le coche, tu peux toujours te raccrocher. Je pensais plus un livre de poche qu'un télécrochet. Mais peu importe l'accroche, il suffit pas de le décrocher. Le mieux c'est de rester proche de ce qui nous faisait rêver. J'ai des valises.
Énervé, la radio ouragan.
Comme un ouragan qui est passé sur.
Ah non, ça suffit là, s'il vous plaît, quoi.
Bientôt la fin. Avant de conclure, Céline va nous parler de l'épopée de Gilgamesh. Ça sonne un peu comme un nom de Pokémon. Salamèche, c'est ça?
Alors oui, ça sonne comme un nom de Pokémon, mais c'est pas du tout la même racine.
Désolée pour ces lacunes, je vais bosser ma mythologie pendant que tu seras on air.
Créatures fantastiques, phénomènes paranormaux, mythologie, folklore et zodiaque, le hors du commun vous est expliqué dans l'horoscope. Aujourd'hui, parlons de l'épopée de Gilgamesh. C'est le premier ouvrage philosophique répertorié de l'histoire, car elle a été écrite au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est un récit racontant l'histoire de Gilgamesh, qui était roi d'Uruk, une ville qui existe toujours aujourd'hui. Comme cette histoire date de Mathusalem, elle a eu une grande influence sur les traditions juives, grecques et sur la Bible. Bon, pour mieux connaître notre héros principal, nom Gilgamesh, profession roi d'Uruk, signe distinctif, grand, beau et fort. Défaut, vaniteux. Parce qu'il ne peut pas s'empêcher de montrer sa supériorité à son peuple, les hommes sont ses esclaves et les femmes sont ses courtisanes, pour être poli sur le terme. Mais les habitants d'Uruk en ont gros sur la patate de cette vie de misère. Et comme les dieux voient cette situation, ils envoient à Uruk un alter ego de Gilgamesh, Enkidu. Mais quand Gilgamesh et Enkidu se rencontrent, ils se haïssent tout de suite. Alors, un grand combat commence entre ces deux monstres. Mais, à force de tarte dans la gueule, ils se rendent compte que ni l'un ni l'autre ne peut gagner. Bah oui, ils sont identiques. Alors, après la castagne, ils deviennent copains comme cochons et ils ne vont plus se séparer. Ensuite, ils auront un objectif commun, la gloire. Et cette gloire, ils vont l'obtenir dans plein d'aventures palpitantes. Mais un jour, ça a commencé à mal aller pour eux. Et oui, les dieux se sont rendus compte que ces deux larrons étaient trop puissants. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour tourner omnipotent? Ben, on bute. Et c'est tombé sur Enkidu. Et Gilgamesh a peur de la mort, car il pense qu'il aura le même destin que son ami. Alors il veut trouver l'immortalité. C'est devenu son obsession. Il a entendu parler d'un type qui a survécu à un déluge et qui est devenu immortel. Il décide d'aller le voir pour lui demander son secret d'immortalité. Gilgamesh va traverser plein d'épreuves, comme Ulysse, pour aller retrouver cet homme. Puis il rencontre cet homme immortel qui lui dit qu'il ne pourra pas avoir l'immortalité, car c'est seulement à lui que les dieux ont donné l'immortalité. Mais la femme de l'immortel lui donne une contrefaçon d'immortalité, une herbe de jouvence qui permet de retrouver la jeunesse. Mais comble de malchance, un serpent vole les herbes de Gilgamesh, et c'est la fin de l'histoire. Bon, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Car c'est quand même une histoire philosophique, hein? Alors, que tous les hommes sont mortels et que c'est une utopie de vouloir devenir immortel. Bon, je suppose que je vais vous laisser ici avec Ticket to the Moon de Electric Light Orchestra. Ciao!
Remember the good old 1980s when things were so uncomplicated.
I wish I could go back there again. And everything could be the same. I've got a ticket to the moon. I'll be leaving here any day soon. Yeah, I've got a ticket to the moon. But I'd rather see the sunrise in your eyes. Got a ticket to the moon. I'll be rising high above the earth so soon. And the tears I cry might turn into the rain that gently falls upon your window. You'll never know.
C'est déjà fini pour cette émission spéciale Syrie. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert ce pays sous un autre angle. Bien évidemment, on se retrouve dans un mois, le 16 juin, pour notre dernière émission de l'année. Les 11e seront aux commandes. Ne manquez pas cette émission OVNI. Aujourd'hui sort aussi l'interview de Savio Michelod, conseiller communal de la commune de Granges, interviewé par Quentin. Donc la seule chose à faire, allez sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas non plus de passer sur le WeMakeIt de la classe 11-10. Ils essaient de trouver 1500 francs pour soutenir une association Imposo per Andrea. Cette association est née de la mort de Andrea. 15 ans, sa mère a découvert dans son journal intime sa volonté d'aider les peuples africains à construire des puits pour soutenir ce projet génial. Allez sur www.wikelmed.com et cherchez Imposo per Andrea. P-O-Z-Z-O, je répète. wikelmed.com et cherchez un pozo. P-O-Z-Z-O per Andrea. On vous tiendra au courant de toutes les prochaines émissions. On se quitte avec Pop Moran d'Anrochid. Foncez sur le site de la radio énervée pour visionner cette interview politique. Allez, trêve de bavardage, place à la musique. Ciao, ciao!